On s'intéresse au tourisme dans ce journal à Moréa pour commencer, et aussi au niveau environnemental. Et puis on vous parle de culture avec ses voeux de la présidence avant de parler du secteur maritime. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence à Moréa puisqu'on revient sur le projet du groupe Van pour la plage de Témé.
Oui, pour la fédération Tahei Oti à Moréa, l'objectif n'a pas changé. Garantir l'accès et la jouissance publique des 550 mètres de cette grande plage. Très fréquentée, même si elle est bordée jusqu'aux limites de l'eau par un domaine privé. Mais la rencontre mercredi dernier avec Moëté Broserson et Eliane Tevahitoua a jeté le chaud et le froid. Le gouvernement a certes confirmé avoir lancé une procédure pour exercer ses droits sur l'emprise réservée de 3 hectares qui bordent la grande plage, ce qui constituerait une victoire pour les militants associatifs pour qui l'acquisition publique de ces 3 hectares de foncier comtier est la seule garantie à la pérennisation de la plage publique de Témé. Mais pour l'exécutif, il n'est pas question de passer à l'acte avant d'avoir étudié les contre-propositions du groupe Van, propriétaire du domaine où il porte un important projet hôtelier. Ces contre-propositions, elles concernent un développement en même temps qu'un aménagement public de la plage sur une partie de sa longueur. C'est ce que confirme Eliane Tevahitoua, qui se félicite de la rencontre avec la fédération, mais qui indique que les positions de toutes les parties doivent être prises en compte.
Ça a été l'occasion de les rencontrer avec le président, de manière à entendre leurs doléances. Mais il est évident qu'on va aussi rencontrer le promoteur qui envisage un projet hôtelier. On va aussi entendre sa version des choses, le projet hôtelier qu'il veut mettre en place. Donc en fonction de toutes ces données, ensuite le gouvernement se positionne.
L'acquisition de l'emprise réservée serait donc, d'après la vice-présidente, toujours d'actualité, mais visiblement pas un passage obligé. Le groupe Van aurait notamment proposé donc la mise à disposition d'une partie de son domaine pour permettre à la mairie et au pays de lancer des aménagements publics. Car la mairie de Moréa est elle aussi très active dans ce dossier. Ses responsables ont présenté en novembre un projet de réaménagement de la plage, avec parc public, nouvelle route d'accès le long de l'aéroport, faré poté, parking, équipement sportif, emplacement de vente de fruits et légumes ou encore sanitaire. Un plan qui a été ouvertement rejeté par la fédération d'associations. Les militants y voient des coûts inconsidérés et l'abandon d'une majeure partie de la plage actuelle au développement privé. Ils dénoncent donc la défense des intérêts du groupe Van. En face, les défenseurs du projet plaident pour le développement économique et de l'emploi dans la zone. Mais l'argument est balayé par Alain Bonneau. Il est le président de l'association des habitants de Témé et porte-parole de la fédération Tahei Oti à Moréa.
Cette plage, économiquement déjà, elle génère des emplois, serait-ce que tous les gens qui viennent à Moréa, l'argent dans les transports, dans les navettes maritimes, dans les locations de véhicules, dans les Airbnb de la place, au restaurant, dans les magasins. Donc le fait de concentrer cette plage à une seule personne, forcément, tous les autres acteurs économiques de l'île vont en pâtir.
Alain Bonneau, comme les autres responsables de la fédération, se dit prêt à débattre publiquement du projet avec le propriétaire, la mairie et le pays. Mais pour l'instant, c'est en cercle plus restreint que le gouvernement veut travailler. À la vice-présidence, où on rappelle les grandes ambitions affichées par l'exécutif sur le développement touristique, on explique qu'une rencontre avec le groupe Van va être programmée dans les semaines à venir.
7h04, côté tourisme toujours, on parle développement durable.
Avec ce rapport qui a été diffusé par le Conseil mondial du tourisme durable, un organisme lié aux Nations Unies que la Polynésie avait rejoint fin 2022 et qui a mené une mission d'évaluation l'année suivante au Fénoua. Un état des lieux en quelque sorte sur la gestion de la destination, la durabilité socio-économique, culturelle ou environnementale. L'idée est d'identifier les défis que les autorités locales ont à surmonter pour préserver le pays au long terme des conséquences néfastes du tourisme. Et le fait est que ces défis sont nombreux, Charlie René.
Et oui, Valdemar, le premier point sur lequel appuie le Conseil, c'est la gestion de l'espace. Le gros des touristes du Fénois se rend sur les mêmes îles, sur les mêmes sites, avec forcément un plus fort impact que s'ils étaient bien répartis. Sur ce point, le gouvernement a déjà fixé le cap en encourageant le développement de la petite et la moyenne hôtellerie dans les îles pas encore très fréquentées. Mais il y a d'autres problèmes importants pour l'organisme onusien, la dépendance aux énergies fossiles notamment, particulièrement marquée dans les archipels éloignés, le manque de développement des transports publics aussi, pourtant bien pratique pour les voyageurs. Le rapport parle aussi des systèmes de gestion de déchets défaillants, au moins en dehors de Tahiti, ou encore des consommations en eau très peu régulées, Valdemar.
Des défis à relever aussi du côté culturel, puisque le Conseil mondial du tourisme durable interpelle sur l'absence de base de données centralisée sur le patrimoine, qui permettrait d'informer les touristes, mais aussi de mieux former les guides et les prestataires. Tahiti Tourisme assure que beaucoup de pistes d'amélioration sont traitées dans la feuille de route 2027, feuille de route qui avait toutefois été préparée sous l'ancienne mandature, et qui prévoyait de limiter le nombre de touristes pour limiter leur impact. Le gouvernement Brotherson, lui, vise 600 000 visiteurs par an d'ici 2030 contre 260 000 aujourd'hui.
On poursuit avec ce vœu adopté en Conseil des ministres hier matin.
Oui, le gouvernement a rappelé son soutien à la candidature du Hori Tahiti pour le patrimoine culturel de l'UNESCO. Démarche qui suit les pas de la mandature précédente, puisque le gouvernement Fritsch avait réussi à obtenir en 2017 l'inscription de la danse traditionnelle tahitienne au patrimoine immatériel français. Et depuis, c'était plutôt le dossier des marquises qui avait été poussé à l'international. Le gouvernement a d'ailleurs aussi adopté un vœu dans ce sens la semaine dernière. L'inscription des marquises à l'UNESCO est toujours prévue pour juillet. Elle n'est pas datée pour ce qui est du Hori Tahiti.
Et puis, autre vœu adopté pendant la même séance et adressé cette fois à la métropole.
Mais le pays demande la numérisation des fonds océaniques conservés aux archives nationales d'outre-mer, et ce afin de rendre leur consultation plus facile depuis le Fénois. À noter toujours au Conseil des ministres, c'est de rendez-vous les journées prospectives de l'économie organisées par le ministère des Finances. Ce sera bien le 27 février prochain, vous en avez parlé. Et de son côté, la vice-présidente organise un séminaire grand fonds le 6 mars. Ça servira à définir la future stratégie du pays en matière d'acquisition de connaissances sur les écosystèmes profonds et en particulier sur les monts sous-marins.
En mer, l'État annonce une montée en puissance de ses actions cette année.
Oui, le Haut Commissariat et le commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française ont présenté le bilan 2023 de l'état de l'action en mer, qui a suivi davantage de navires et mené plus d'opérations de sauvetage. C'est le premier motif de satisfaction. Le second concerne la surveillance des pêches, qui s'est intensifiée en 2023. La posture française est vécue par les navires étrangers comme dissuasive, c'est ce que dit le Haut Commissaire. Il annonce que les heures de vol et de mer consacrées à la surveillance pourront bientôt être doublés.
La protection de notre zone de pêche est l'une des priorités de l'action de l'État en mer. Nous allons d'ailleurs renouveler nos moyens très fortement, puisque le gardien va être remplacé par deux Falcon 50 et parce que le patrouilleur actuel va être remplacé par deux autres patrouilleurs plus efficaces qui vont plus loin, qui peuvent faire voler des drones la nuit. Donc c'est un renforcement considérable de nos moyens. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'action de pêche illégale dans notre ZEE depuis une quinzaine d'années. Donc nous sommes efficaces et ça se sait chez les flottes étrangères.
Mais l'État veut aller encore plus loin avec la volonté d'aller dans les ZEE des pays étrangers et d'obtenir l'autorisation d'aller vérifier les poissons dans leur cale. C'est aussi une manière pour la France, dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique, de jouer la bienveillance et d'offrir des moyens de protection aux pays étrangers. Voilà ce que rajoutait Rick Spitz. Un accord se dessine d'ailleurs déjà avec trois pays du Pacifique. Voilà ce qu'explique le contre-amiral Dandinier.
On est sur une lettre d'intention pour travailler ensemble, la France, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec les Fidji et avec les Tonga. C'est le début d'un travail pour mettre en place des accords bilatéraux pour permettre, quand on va dans les ZEE de ces pays-là, on embarque un agent contrôleur des Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des Tonga, qui lui va pouvoir mener un contrôle beaucoup plus approfondi et beaucoup plus efficace que ce que nous avons le droit de faire aujourd'hui.
Voilà, et l'État se dit également attentif à la position des pays de la zone sur un autre sujet, celui de l'exploitation des fonds marins. Il se dit même un peu inquiet, car si la France et la Polynésie sont d'accord pour n'autoriser que l'exploration à des fins scientifiques, ce n'est pas le cas par exemple des îles Cook, qui depuis plusieurs années tablent sur l'exploitation des grands fonds marins et ont déjà accordé plusieurs licences d'exploration à des sociétés étrangères.
En mer toujours, la marina Taina augmente ses tarifs.
Et la communauté de la voile est sous le choc. La marina Taina n'avait pas augmenté ses prix depuis 2006. Le délégataire de service public qui gère cette marina pour le port autonome demandait donc la possibilité de les augmenter, que ce soit pour les bateaux amarrés à quai ou ceux amarrés sur bouée. Et ces augmentations ont été actées lors du conseil d'administration du 25 janvier et elles s'appliqueront dès le 1er mars, alors que la marina n'a pas encore diffusé l'information officielle. Les propriétaires qui vivent sur leur bateaux sont particulièrement visés. Le tarif qui leur sera demandé est majoré de 250% pour un monocoque et de 150% pour un multicoque. Selon les calculs de l'Association des voiliers de Polynésie, le loyer demandé à un voilier de 13 mètres passerait donc de 20 000 à 100 000 francs par mois. Une mesure qui s'ajoute aux limitations de stationnement à 24 ou 48 heures dans de nombreuses communes polynésiennes. Pour Arnaud Jordan, le président de l'association, le message du pays est clair.
Si on voulait, un, tuer la plaisance, deux, fabriquer des épaves, parce que bah, les gens ils ont un budget limité, au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir payer l'amarrage et entretenir leur bateau. Donc ça va être un petit peu catastrophique, et puis bah, c'est un signal tout à fait délétère pour le tourisme en général, le tourisme plaisancier en particulier. Il y a vraiment un énorme mouvement de « ne venez pas chez nous, partez d'ici ».
Alors personne ne semble pourtant en mesure de donner le nombre de voiliers habités qui seraient concernés. L'association les estime à moins d'une centaine sur toute la Polynésie, mais elle pointe surtout deux choses. D'abord, les précédents gouvernements ont encouragé les longs séjours de voiliers pendant des années, mais sans construire les infrastructures correspondantes. Ensuite, cette nouvelle tarification punit les plaisanciers qui respectent les règles, ceux qui vont en marina et payent leur amarrage, alors que rien ne semble entrepris contre ceux qui naviguent et sont donc attachés comme bon leur semble. Du côté du gérant de la marina, on explique que même avec cette augmentation, les tarifs de Taïna restent inférieurs à ceux pratiqués ailleurs, par exemple à Nouméa.
Du sport pour finir, jour de quart de finale pour les Tikitoa et ça commence plutôt bien Valdemar.
Oui, les Tahitiens qui jouent contre l'Italie, ça a commencé il y a quelques minutes, on est toujours dans le premier tiers-temps et les Tikitoa qui mènent déjà 2-0 dans ce quart de finale, ça se passe à Dubaï bien sûr. Alors pour rappel, l'Italie, les Tahitiens, ils connaissent bien puisqu'ils avaient déjà joué contre cet adversaire lors du dernier mondial. L'Italie avait gagné 12-4, bon pour le moment en tout cas, le score en faveur de Tahiti, on espère que ça va rester le cas jusqu'à la fin du troisième tiers-temps pour espérer voir les demi-finales. Pour rappel, les Tikitoa avaient achevé leur phase de poule lundi avec 2 victoires et 1 défaite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, je vous rappelle ce rendez-vous à 8h, les stars de la magie qui sont l'invité de Damien sur Radio 1. Ils iront voir Aldo à 8h20 sur Tiare FM. Les stars de la magie qui se produiront vendredi et samedi pour 5 représentations au Grand Théâtre. Et puis, on suit bien sûr le quart de finale de nos Tikitoa durant ce réveil du Fénois.